Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à ce nouveau numéro de Métropole et vous. Merci d'être toujours fidèle à cette émission. Une émission où nous avons souvent eu l'occasion de recevoir des dirigeants de grands établissements de la métropole toulousaine, comme le Pôle emploi, l'INSEE, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées. Il est un autre grand organisme dont tout le monde connaît l'acronyme, sans savoir toujours quels services et missions il assure. Je veux parler de la CAF, la Caisse des allocations familiales. Pourtant, la CAF, les CAF, celles de la Haute-Garonne en particulier, en dehors des allocations qu'elles versent à nombre d'entre nous, ont d'autres missions et mènent des actions dans divers domaines du champ social. Ce fait est souvent méconnu ou mal connu. Il m'a donc semblé important de mieux les faire connaître en consacrant un numéro de Métropolez-vous aux missions et aux actions de la CAF de Haute-Garonne. Et pour découvrir tous les services, les missions et actions de la CAF de Haute-Garonne, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui son directeur, Jean-Charles Pitot, que je salue et remercie d'avoir répondu à notre invitation. Et je voudrais d'abord profiter de votre présence pour faire un petit historique de la CAF. Je ne sais pas si tout le monde sait à quand remonte sa création et quelles furent à l'époque les raisons qui y amenèrent. Alors la CAF, ça fait partie de tous ces organismes qui ont été créés juste après la Seconde Guerre mondiale.
Exactement, c'est le fruit du travail du Conseil national de la Résistance qui a beaucoup œuvré pour créer la sécurité sociale dans son ensemble. Et au sein de cette sécurité sociale, il y a ce qu'on appelle la branche famille, celle qui s'occupe des allocations familiales. Mais vous allez y retrouver le recouvrement des cotisations, vous allez y retrouver l'assurance maladie et vous allez y retrouver le régime des retraites.
Donc nous sommes en 1945, au moment de la création de la CAF et de la sécurité sociale. Comment la CAF, ses missions et services ont-ils évolué dans le temps et quels sont-ils aujourd'hui?
Alors d'abord, peut-être se rappeler que la sécurité sociale a été créée par une ordonnance, qui est une ordonnance du 4 octobre 1945. Les missions ont très fortement évolué. Les caisses d'allocations familiales ont d'abord été créées pour verser exclusivement des prestations aux familles, essentiellement les allocations familiales et d'autres prestations complémentaires. Deuxième grande vague de développement, ça a été de considérer qu'il y avait aussi des problématiques en matière d'accès au logement. Et donc, en complément des prestations familiales, ont été créées des prestations logement et enrichies, je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais ont été enrichies et les CAF se sont vus confier le versement de prestations pour permettre aux gens d'accéder à leur logement. Et puis enfin, la crise économique est apparue dans le courant des années 70, les premières situations de chômage, et à partir de la création des mouvements nouveaux, notamment en matière d'allocation chômage, eh bien, il a été créé des prestations de solidarité, et ces prestations de solidarité ont été progressivement confiées aux caisses d'allocation familiale. La première, c'était ce qu'on appelait l'allocation de parents isolés. Puis ensuite, il y a eu le RMI, revenu minimum d'insertion, et puis ensuite le RSA, et maintenant d'autres types de prestations. Donc trois grands univers pour la CAF, la famille, le logement et la solidarité.
Merci pour toutes ces précisions et ce petit cours d'histoire, cette présentation de la CAF. On va entrer un peu plus dans le détail dans quelques minutes. Dans l'immédiat, place à l'actualité métropolitaine avec Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Nous l'évoquons de temps à autre dans cette émission, Toulouse Métropole lance régulièrement des appels à projets. C'est le cas par exemple dans le domaine de la culture, avec un récent appel à projet culturel Toulouse Métropole 2019.
Effectivement Eric, pour la mise en œuvre de sa politique culturelle, Toulouse Métropole a fixé trois objectifs prioritaires pour l'ensemble des actions qu'elle met en œuvre directement et pour les actions qu'elle souhaite soutenir menées par des partenaires artistiques et culturels. Ces objectifs fixent le cadre de l'appel à projets sans pour autant obliger les candidats à en satisfaire tous les points détaillés. Les candidats doivent proposer des actions qui répondent à l'ensemble des exigences suivantes, se dérouler sur au moins trois communes de Toulouse Métropole, privilégier la découverte, l'émergence et la création par des projets artistiquement innovants, privilégier un rapport de proximité avec les habitants par des projets artistiques participatifs ou enfin contribuer à construire l'identité culturelle de la métropole autour de l'un ou de plusieurs des axes suivants: la métropole des musiques, la métropole de la création et des cultures émergentes, la métropole des images ou encore la métropole des savoirs, exclusivement dans le domaine de la lecture publique pour cette édition. Les dossiers devront impérativement être envoyés sous format électronique avec demande d'accusé de réception avec l'ensemble des pièces exigées par mail. Plus de renseignements sur le site internet toulouse-métropole.fr.
Nous en avons parlé un peu la semaine dernière. À l'heure de la Smart City, l'open data se met au service de l'information et de la transparence.
Oui, l'open data, c'est l'ouverture des données en français. C'est la mise à disposition de données publiques détenues par les services de l'État, les administrations et les collectivités territoriales pour permettre à un large public de les réutiliser. Les données à caractère personnel ou touchant à la sécurité en sont exclues. Elles doivent être brutes, accessibles en ligne et sous des formats ouverts pour en faciliter la réutilisation. Toulouse Métropole a son site, tout comme d'autres institutions. C'est le cas, par exemple, de la CAF de la Haute-Garonne. Elle a mis à jour son système d'information géographique, SIG-CAPMIPI, afin de partager sa connaissance des données sociales du territoire. À travers cet atlas interactif, vous pouvez accéder à plus de 50 000 données sur l'ensemble de l'ancienne région Midi-Pyrénées, par commune, par quartier, pour 5 familles d'indicateurs, allocataires, précarité ou encore situation familiale. Mis en parallèle, ces deux portails d'information révèlent le profil des habitants de la métropole toulousaine, mais aussi de leur quartier et de leurs activités économiques.
Voilà, donc concernant la dernière information de ce flash, Jean-Charles Pitot, vous souhaitez peut-être donner quelques précisions supplémentaires sur ce SIG, SIG, CAF, MIPI, je précise, hein, c'est SIG-CAF-MIPY.fr, peut-être préciser ce que sont ces fonctionnalités.
Alors d'abord, préciser que le système d'information géographique de la CAF, c'est une coproduction entre la Caisse d'allocation familiale et l'université, notamment le Master de géographie de l'Université de Toulouse. Donc c'est important. Notre souci, c'était d'apporter de la transparence dans la connaissance de l'information. Nous avons, par notre mission de service public extrêmement large, des tas d'informations utiles pour l'usager, le citoyen, utiles pour les partenaires, utiles pour les collectivités territoriales, utiles pour les associations qui veulent faire des offres de services, des développement. Et donc l'idée pour nous, ça a été de pouvoir mettre à disposition tout simplement un outil cartographique qui permet à l'échelle de la commune, du quartier, de l'intercommunalité, du département et de maintenant de la région, de l'ex-région, en tout cas des 8 départements de Midi-Pyrénées, de pouvoir avoir une approche cartographique sur l'ensemble de ces territoires, sur toutes les données, à savoir près de 50 000 données qui touchent à la famille, à l'enfance, à la précarité et au logement.
Alors Toulouse Métropole, il a été fait un petit peu allusion dans ce bulletin d'information, a également son site internet. Est-ce qu'il est prévu à terme de croiser certaines des informations du site de la Métropole et le vôtre ?
Alors bien sûr, c'est un enjeu majeur pour l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes dans ce que l'on appelle l'open data, c'est-à-dire chaque service public ouvre sa donnée pour que l'usager, chacun puisse en avoir connaissance et disposer des informations ouvrables à tout le monde. L'objectif, c'est le big data, c'est-à-dire le croisement des données entre les données de la Métropole, les données de l'ensemble des services publics, justement pour améliorer notre offre de services. Et ça nous serait particulièrement utile, notamment sur la métropole. On va certainement pouvoir y travailler, bien qu'il y ait encore des contraintes techniques et peut-être des contraintes liées à la CNIL, de telle manière qu'on puisse aussi faire évoluer notre offre de services en fonction de l'évolution de la présence des habitants sur le territoire, de leur changement géographique, pour adapter les équipements et les services dont ils ont besoin.
Alors on est déjà un petit peu dans le sujet, on va le creuser encore. Et je rappelle donc le thème de cette émission, l'émission et les actions de la CAF de Haute-Garonne.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Seconde partie de Métropole et vous avec notre invité Jean-Charles Pitot, directeur de la CAF de Haute-Garonne. Concernant l'établissement que vous dirigez, on a eu le droit à un petit cours d'histoire très précis tout à l'heure. Je voudrais qu'on aborde le sujet maintenant sur le plan géographique. Comment est implantée la CAF dans notre département? Combien y a-t-il d'antennes en Haute-Garonne et en particulier dans la métropole toulousaine?
Alors, la CAF de la Haute-Garonne a 9 sites d'implantation sur l'ensemble du département de la Haute-Garonne. Elle a une compétence départementale. Elle couvre un peu plus de la moitié de la population, près de 52% de la population. Elle est implantée dans le Comminjois sur le site de Saint-Gaudens. Elle est implantée sur le Muretin à Muret. Elle est implantée ensuite sur la métropole de manière très large. D'abord sur Toulouse, au centre-ville, plus 3 territoires très importants pour nous par rapport à nos publics, Empalo, Rennery, Les Isards. Et donc le centre-ville avec Jolimont et le siège. Et ensuite, nous sommes implantés sur la métropole, au-delà de Toulouse, à Colomiers, à Saint-Alban, de telle manière que nous puissions avoir une couverture la plus globale possible au niveau des territoires.
Dans toutes ces antennes, on retrouve exactement les mêmes services, les mêmes prestations ?
Alors, dans toutes les antennes, dans tous les services, vous aurez à la fois un accueil individuel pour l'usager, un espace multiservice pour pouvoir faire sa demande sur le CAF.fr, puisque c'est un développement, le numérique est un enjeu majeur du développement des services publics, et vous aurez aussi un accueil par un travailleur social lorsque vous avez des problématiques spécifiques, puisque la CAF a des travailleurs sociaux sur l'ensemble du département.
Ça représente combien d'effectifs dans le département et donc combien d'emplois ?
Alors, en nombre d'emplois, c'est 644 emplois au 31 décembre 2016.
Une question que je me posais, qui est peut-être d'ailleurs sans fondement, est-ce que les CAF peuvent avoir des services ou des spécificités particulières d'un territoire à l'autre, suivant le type de population auquel ils ont affaire ?
Alors oui, notamment pour le département de la Haute-Garonne, parce que nous sommes un département très particulier, différent par sa typologie et plutôt par sa sociologie. Nous avons par exemple un pourcentage, on a 22% de nos allocataires qui ont moins de 25 ans. La moyenne nationale est à 7%. Et nous avons par ailleurs très peu d'allocataires de plus de 60 ans, proportionnellement à la moyenne nationale, puisqu'on a un public arrivant dans le département, jeune pour ses études ou jeune couple avec enfants qui arrive pour s'installer parce qu'il trouve un emploi. Et donc par rapport à cela, on est obligé d'adapter notre service. On l'adapte de différentes manières. On l'adapte par exemple depuis 2015 avec notre intégration dans l'espace accueil Welcome Desk qui est situé dans les locaux de l'Université fédérale de Toulouse. C'est un partenariat qui est unique pour l'instant en France. La CAF est implantée toute l'année dans cet espace, reçoit les étudiants. Pourquoi elle a choisi et ce partenariat avec l'Université fédérale ? Tout simplement parce que par rapport à notre activité, nous gérons les dossiers de près de 50 000 étudiants, ce qui représente une population très importante. Et à ce titre-là, ils ont des besoins spécifiques. Donc, nous les accueillons dans un lieu spécifique. Et c'est très important pour nous parce que dans le même lieu, ils vont, pour les 5 000 étudiants qui sont étrangers, obtenir leur titre de séjour. Et dès qu'ils obtiennent leur titre de séjour, ils viennent à la CAF qui est située à 2 mètres de la préfecture, finalement. Et ils font leur demande d'allocation logement dans l'immédiat. Même chose pour le CROUS, même chose pour les informations et l'orientation pour les étudiants. Donc, c'est vraiment une offre de service dédiée.
Comme vous parlez de la sociologie des allocataires en Haute-Garonne, déjà combien y a-t-il d'allocataires dans l'ensemble du département ?
Alors, nous avons plus de 301 000 allocataires dans le département de la Haute-Garonne, ce qui représente près de 52% de la population, parce que derrière un allocataire, il y a des conjoints, il y a des enfants.
Et dans la métropole en particulier, je suppose qu'il y en a sans doute une grosse part par rapport au reste du département.
Alors, la métropole représente les deux tiers de nos allocataires. Avec une typologie là aussi différente, une population qui ne bénéficie pas des mêmes types de prestations. Et on voit que les prestations, par exemple, liées à la précarité sont plus orientées sur certains secteurs géographiques et particulièrement dans les zones rurales, paradoxalement, mais aussi dans certains quartiers de Toulouse ou certains quartiers de la métropole. Mais globalement, nous sommes une caisse d'allocation familiale qui a un nombre de bénéficiaires d'allocations de précarité moins important que dans d'autres départements.
Ça veut dire que si on parle du RSA, en proportion, bien sûr, il y en a beaucoup plus dans les territoires ruraux, sans doute, que dans la métropole.
Absolument. Si vous regardez sur le système d'information géographique, vous pouvez aller sur ces territoires et vous verrez qu'il y a une densité dans le Comminjois de bénéficiaires de minima sociaux beaucoup plus importante que sur la métropole.
En termes d'évolution, comment le nombre d'allocataires a-t-il évolué donc ces dernières années ? Je crois qu'il y a eu une forte hausse l'an passé.
Alors nous avons une forte hausse constante. Ce qu'il faut préciser, c'est que sur les 5 dernières années, notre taux d'évolution de nombre d'allocataires est le plus fort de toute la métropole. Plus que la région parisienne, Lyon, Marseille. Nous sommes en 3e position au niveau national en taux d'évolution de nombre d'allocataires, juste derrière la Guyane et Mayotte, ce qui est quand même révélateur. En 5 ans, nous avons gagné 40 000 allocataires, ce qui est assez considérable. Dans la seule année 2016, nous avons gagné plus de 23 000 allocataires liés à la création de la prime d'activité, qui là encore est très révélatrice de l'évolution de l'activité de la CAF de la Haute-Garonne, parce que notre nombre d'allocataires a très fortement progressé, et avec une typologie là encore différente, qui a accentué un phénomène que nous avions déjà dans le département, c'est celui du phénomène des populations dites isolées. Une population isolée, bénéficiaire d'une prestation, c'est en fait une personne seule, sans enfant à charge. Globalement, la plupart des caisses d'allocation familiale ont un pourcentage d'allocataires isolés de l'ordre de 40%. Et dans le département de la Haute-Garonne, les publics isolés bénéficiaires des prestations de la CAF est de l'ordre de 50%. Pourquoi ? Parce qu'il y a les étudiants, mais il y a aussi la prime d'activité, parce que la prime d'activité, elle concerne souvent des personnes qui ont des revenus d'un montant inférieur à 1500 euros par mois. Elle correspond exactement au profil des personnes qui arrivent dans le département. Vous parliez tout à l'heure de l'augmentation du nombre de la population sur la métropole, et nous sommes directement impactés parce que ces populations-là sont potentiellement bénéficiaires des aides de la CAF, non pas sur les aides liées à la précarité, mais sur l'aide au logement et et aussi sur la prime d'activité qui est un complément de revenu à ceux qui ont une activité professionnelle et qui démarrent leur activité professionnelle.
Il faut dire aussi que le territoire métropolitain en particulier attire beaucoup de jeunes familles.
Absolument.
Avec de jeunes enfants.
Absolument. Alors paradoxalement, nous avons une très forte augmentation de notre nombre d'allocataires, mais nous n'avons surtout pas une diminution des bénéficiaires de prestations familiales, puisque nous sommes, il faut quand même le rappeler, la deuxième ville de France pour le taux de natalité, derrière Paris, en valeur absolue, c'est Toulouse. Et donc derrière, il y a pour les parents des problématiques liées au mode de garde.
Je me rends compte en vous écoutant que la CAF joue aussi un rôle de vigie, si je puis dire, d'évolution de la société française, sociologiquement, mais aussi économiquement.
Alors, sociologiquement, je suis très sensible et on analyse tous les ans la situation par rapport au nombre de naissances parce qu'on sait que derrière le nombre de naissances, il y aura des besoins de modes de garde. Et derrière des modes de garde, ce sont des crèches ou des assistantes maternelles. Et la CAF est présente dans le soutien à ce type de projet d'équipement ou de service. Mais il y a aussi une évolution, effectivement, sur la situation économique. Par exemple, nous constatons depuis 2016 une baisse du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active, ce qui est un indicateur économique qui laisse entendre qu'il y a une évolution de l'activité.
Reprise de l'emploi, sans doute.
Voilà. Tout à fait.
Reprise économique,
économique,
au sens large.
Voilà.
Alors, vous avez évoqué cet aspect aussi. Si on parle de la cartographie française, est-ce qu'on constate vraiment des différences importantes entre les départements de la Haute-Garonne et les autres départements français, les autres territoires français ?
Il y a des différences très notables. Par exemple, sur la prime d'activité, nous avons eu un des plus forts taux d'évolution de la prime d'activité. Et je profite d'ailleurs de votre antenne pour inciter vos auditeurs à regarder s'ils sont potentiellement bénéficiaires de la prime d'activité en allant sur le CAF.fr et en simulant leur potentiel droit. Parce que nous savons aussi qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas sollicité cette prestation.
Alors qu'ils y ont droit.
Alors qu'ils y ont droit. Et ça, c'est un élément important. Mais nous avions prévu, au niveau national, on prévoyait d'avoir 20 000 allocataires bénéficiaires de la prime d'activité début 2016. Et nous en avons eu plus de 60 000. Mais on sait que par ailleurs, il y a d'autres potentiels bénéficiaires. Et ça, c'est important. Et nous sommes très atypiques pour cela. Nous sommes très atypiques pour l'aide au logement. Nous sommes un des départements sur l'ensemble de nos allocataires, sur les 300 000 allocataires, près de 170 000 ont l'aide au logement. Et donc, on voit bien qu'on est très, très à l'écart de la situation des autres départements qui ont plutôt plus de prestations familiales que de prestations de logement et de prestations de solidarité, alors que nous, la prestation de logement est très fortement majoritaire, liée aux étudiants, bien évidemment. Les prestations de solidarité sont plutôt relativement stables. Et puis, les prestations familiales représentent moins de la moitié des prestations que l'on verse, paradoxalement.
Alors, je crois qu'il y a une autre particularité de la CAF de Haute-Garonne, c'est qu'il y a quelque chose qui concerne l'accompagnement, le suivi lors de la séparation de couple, notamment lorsque celle-ci ne se passe pas bien, ce qui arrive relativement souvent, malheureusement.
C'est un sujet très important parce que derrière la séparation, il y a des problèmes graves pour le couple qui ont des incidences très fortes sur les enfants. La première problématique en France, c'est celui du recouvrement des pensions alimentaires, où effectivement on a constaté à la fin des années 90 que seulement 40% des pensions alimentaires étaient versées par le débiteur de pensions alimentaires. Donc derrière, c'est un facteur d'aggravation de la précarité de la mère, puisque dans 97% des cas, c'est cela, de la maman avec les enfants à charge. Donc cette précarité, elle a aussi une conséquence forte pour les enfants. Donc il faut essayer de trouver des solutions de plusieurs types. La première, c'est d'améliorer le recouvrement des pensions alimentaires. Et l'État a créé en 2017 une agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires. Et elle a confié le pilotage de cette agence à la Caisse nationale des allocations familiales. Et la CAF de la Haute-Garonne, par délégation, gère le recouvrement des pensions alimentaires pour les 8 départements de Midi-Pyrénées. Mais au-delà de cette dimension de recouvrement de la pension alimentaire, il y a l'accompagnement social des familles qui est pour nous aussi très important. Et nous avons dès 2016 expérimenté, à partir d'une expérience issue du Québec, qui fait cela déjà depuis plus de 10 ans, nous avons expérimenté des séances d'information collectives pour les familles qui se séparent, séance d'information que l'on appelait « parents après la séparation » à partir de 3 constats. Celui que la séparation génère des problématiques financières, qu'elle génère des problématiques de nature psychologique et puis des problématiques de nature juridique. Et pour cela, on a noué des partenariats avec le Centre d'information du droit des femmes, avec nos travailleurs sociaux, avec les associations de médiation familiale et on organise ces séances d'information dans tout le département et on le généralise dans l'ensemble des sites, y compris sur le commun joie, bien évidemment. Évidemment, avec une invitation, dès qu'une personne nous déclare une séparation à la CAF, on lui fait cette offre de service de participer à ces séances d'information collective.
Alors ça, c'est assez récent, c'est une nouveauté. Il y en a sans doute d'autres, on a parlé de la prime d'activité, on a parlé du site Open Data, là, qui donc a été un petit peu rénové. Est-ce qu'il y a d'autres nouveaux services, nouvelles propositions qui sont faites aux allocataires potentiels ?
Alors, Vous savez que la Caisse d'allocation familiale, comme tous les services publics, développe l'offre de services numériques et qu'on peut faire sa demande de prestations sur Internet. Mais le constat que l'on fait, c'est qu'une partie de nos publics ont trop de difficultés pour accéder au numérique et notre rôle, c'est justement de le faire accéder aux droits. Et pour favoriser cela, on vient d'ouvrir au siège de la CAF, 15 rue Riquet, un espace exclusivement dédié à l'accueil sur rendez-vous. Il suffit à nos allocataires de venir dans l'un des autres sites d'accueil que j'ai évoqué tout à l'heure ou de le faire par Internet s'ils peuvent le faire, de telle manière qu'ils puissent prendre rendez-vous avec la CAF, et on a créé un site d'accueil sur rendez-vous dédié au siège de la CAF qui permet de recevoir les allocataires dans d'excellentes conditions en prenant le temps nécessaire pour gérer leur situation et répondre à leurs problèmes.
Alors, il faut bien qu'on en parle aussi. Quid de la fraude aux allocations familiales? Est-ce qu'il y en a beaucoup chaque année? Est-ce que c'est quelque chose qui a plutôt tendance à augmenter? Et puis surtout, quelle somme ça représente de manque à gagner, si je puis dire, pour votre organisme?
Alors, très clairement, le sujet de la fraude n'est pas un sujet tabou, il faut en parler, parce que lorsque l'on fraude, c'est au détriment des autres usagers, clairement, et notre rôle en tant que service public, c'est de verser tout le droit, mais rien que le droit, et de veiller aussi au respect de la réglementation. Donc c'est important que la fraude soit sanctionnée de manière
ferme,
claire et de manière très transparente. Alors la lutte contre la fraude, c'est quelque chose qui se développe. Bien évidemment, nous surveillons cela de très près, nous le suivons de très près. Nous pouvons organiser un examen de la situation des dossiers de trois manières. D'abord, en échangeant nos fichiers avec d'autres partenaires, Pôle emploi par exemple, les impôts. Et à partir des données qui sont transmises à ces partenaires, eh bien, on peut contrôler que les données qui nous ont été transmises sont justes. C'est ce qu'on appelle le contrôle des données entrantes. Puis ensuite, on peut faire du contrôle sur pièce. La personne nous demande une prestation et dans le cadre d'un contrôle qui sera plutôt aléatoire, on va rechercher en demandant à la personne de nous fournir ses pièces justificatives pour vérifier que ce qu'elle nous a déclaré est bien juste. On appelle ça le contrôle sur pièce. Et puis enfin, il y a le contrôle sur place. Nous avons aujourd'hui une quinzaine de contrôleurs sur place assermentés qui se déplacent au domicile des usagers ou qui les convoquent dans nos accueils pour vérifier que leurs déclarations sont justes. Tout cela nous permet quand même d'identifier un nombre significatif de fraudes. L'enjeu financier de la totalité des fraudes identifiées par la CAF, c'est 4 200 000 euros, ce qui est important, mais ce qu'il faut relativiser au regard de l'ensemble des prestations que verse la CAF, puisque l'ensemble des prestations versées par la CAF, c'est près de 1 800 000 d'euros, ça représente à peine 0,25% du total des prestations. C'est peu, mais ça mérite d'être signalé parce qu'il nous faut être très vigilants sur la mission de service public qui est la nôtre par rapport à l'inquiétude qui pourrait être portée par certains, laissant penser que la caisse d'allocation familiale est fraudée très facilement. Eh bien, je le dis, non. Et nous y sommes extrêmement vigilants. Et chaque année, nous renforçons l'équipe de contrôleurs, d'agents assermentés, par exemple.
De plus en plus de moyens qui sont mis à disposition pour lutter contre la fraude.
On a augmenté, au cours des 7 ou 8 dernières années, nous sommes passés de 10 contrôleurs à 15 contrôleurs, ce qui est une progression quand même significative. Et nous recruterons d'autres contrôleurs en 2018 parce que nous savons que c'est un besoin particulier et que le contrôle sur place est un contrôle extrêmement efficace qui permet d'identifier bien les situations globales des allocataires. Mais je voudrais préciser que ces contrôleurs sur place, dans les trois quarts des cas, identifient des indus, c'est-à-dire des sommes qui ont été versées qui n'auraient pas dû l'être à nos allocataires, mais dans un quart des cas, ils permettent de faire des rappels, parce que le rôle du contrôleur, c'est aussi le juste droit, c'est-à-dire de constater que dans certaines situations, des allocataires n'ont pas demandé certaines prestations auxquelles ils avaient droit. Trois quarts d'indus, un quart de rappel.
Alors, je voudrais qu'on termine aussi sur les actions que mène la CAF par un soutien financier, en partenariat, en collaboration avec les communes, avec les mairies. Vous avez des relations sans doute étroites avec les villes, la ville de Toulouse bien sûr, mais aussi les villes, les autres communes de la métropole toulousaine. Et je pensais notamment à des projets que vous soutenez comme la création de crèches, la création de places de crèches, mais il y en a peut-être d'autres.
Alors c'est un sujet majeur, la création de places de crèches dans le département de la Haute-Garonne. On est aujourd'hui un des départements qui crée le plus de places d'accueil de la petite enfance en France, notamment dans l'accueil collectif, et particulièrement sur Toulouse, puisqu'il y a un enjeu de création au cours de la période qui est de 1000 créations de places. Ces 1000 créations de places sont retraduites dans une convention que la CAF signe avec la collectivité qui s'appelle un contrat enfance-jeunesse. derrière les actions que la ville veut développer pour créer ses places, il y a un engagement de la CAF à financer une partie de la création de ces places en termes de fonctionnement jusqu'à à peu près 50% du coût du fonctionnement de ces places nouvelles créées. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important. Je tiens à préciser que nous sommes le département qui aujourd'hui crée le plus de places d'accueil de la petite enfance, y compris dans un contexte difficile économiquement pour les collectivités. C'est valable pour Toulouse, mais c'est aussi valable pour toutes les communes de la métropole. Et c'est aussi valable pour les autres communes de l'ensemble du département de la Haute-Garonne qui continuent à développer l'accueil de la petite enfance. Au-delà de l'accueil de la petite enfance, il y a tout le soutien que la CAF peut apporter à ses collectivités. Et c'est très important sur Toulouse, particulièrement sur Toulouse et sur toute la métropole. C'est tout ce qui concerne l'accompagnement périscolaire, c'est-à-dire le financement des centres de loisirs associés à l'école, qui est un enjeu extrêmement fort pour les collectivités qui ont souhaité s'engager sur l'aménagement des rythmes éducatifs à raison de 4 jours et demi par semaine. Mais ça concerne essentiellement les villes très urbaines, mais ça concerne la quasi-totalité des communes du département de la Haute-Garonne qui ont préservé l'accueil et l'aménagement des rythmes éducatifs tel qu'il existait jusqu'en 2016, c'est-à-dire 4 jours et demi. Et en contrepartie, la CAF apporte un soutien financier sur tout ce qu'on appelle l'accompagnement périscolaire avant l'école, pendant le temps de repas et après l'école.
Quelle somme ça représente? Est-ce que vous engagez dans des projets comme ceux-ci?
Alors, ceux-ci sont les plus importants, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, notamment dans le développement de l'animation de la vie sociale, les centres sociaux, les foyers de jeunes travailleurs. Tout cela fait l'objet d'un financement par la CAF. Pour notre département, la CAF consacre 190 millions d'euros de prestations versées et de subventions d'investissement versées aux collectivités territoriales et aux associations qui sont très présentes dans ce secteur.
Oui, donc des sommes vraiment considérables. Eh bien, il fallait que tout ça soit précisé. Merci infiniment Jean-Charles Pitot pour votre venue et pour toutes ces explications et informations sur les actions et les missions de la CAF de Haute-Garonne. Je pense que nous avons fait un tour d'horizon assez complet de ces missions et actions, ainsi que de tous les services que vous proposez. J'espère que ceux qui nous écoutent auront pu recueillir des renseignements précieux grâce à nos échanges et qu'ils n'hésiteront pas à contacter la CAF ou à s'y rendre pour en savoir plus. De même, ils auront pu découvrir les actions, les projets dans lesquels elles s'impliquent avec les collectivités territoriales, les soutiens financiers que vous pouvez apporter. Il y a un site internet au niveau national, www.caf.fr. Une fois que vous êtes dessus, il suffit d'aller chercher le département dont vous dépendez pour avoir tous les renseignements nécessaires. N'hésitez pas à le consulter. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.